7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin des réformes, des commissions d'enquête et pourtant l'aide sociale à l'enfance est toujours incapable de protéger les plus vulnérables. Une flamme et des déchets, les éboueurs marseillais sont en grève avant l'arrivée de la flamme olympique mercredi en France. Et puis Charles III est sur le trône depuis un an, un roi toujours populaire avec un règne marqué par la maladie.
Après le journal, c'est l'écho du monde, Christian Macarian. L'Europe devrait parler d'une même voix avec la Chine, mais ça n'est pas le cas. Suivi du journal imprévisible consacré aux jeux télévisés, des chiffres et les lettres, dont France Télévisions vient d'annoncer l'arrêt. Enfin, Pierrick Fay, le décryptage de l'économie, de nouveaux rebondissements dans le dossier Atos. 300 000 enfants sont placés en France à l'aide sociale à l'enfance.
L'ASE est la structure du dernier recours pour protéger les enfants de familles et de parents absents et défaillants. Une commission d'enquête parlementaire se penche en ce moment sur le fonctionnement de cette structure pourtant réformée il y a 2 ans. En janvier, une jeune de 15 ans était retrouvée pendue dans un hôtel. D'anciens enfants placés, 190, se sont regroupés au sein du comité Les Oubliés de la République. Blandine de Chalon en fait partie et vous l'avez rencontrée à Neuermann.
Blandine n'a 1 an et demi au début de son suivi par l'aide sociale à l'enfance. Sa sœur et elle sont alors confiées à une famille d'accueil agréée par l'ASE où elles sont victimes de maltraitance.
Par exemple, ma sœur, elle se prenait des pichets d'eau dans le visage. Moi, on me mettait toute l'après-midi devant mon assiette de boudin jusqu'à ce que je la mange parce que j'aimais pas ça. Ça paraît rien, mais pour un enfant, ça marque.
Blandine est ensuite déplacée au sein d'un foyer à Bourg-en-Bresse après des révélations d'inceste commis par son père. Mais 2 ans plus tard, alors qu'il est reconnu coupable des abus par la justice, la jeune femme est rendue à sa famille.
Des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance viennent à la maison pour vérifier si tout va bien. Et à ce moment-là, évidemment, vu que les parents ont envie de montrer leur meilleur jour, c'est le grand cinéma et ils mettent le chauffage, ils mettent à manger sur la table et dans le frigo. Tout le monde s'est brossé les dents et s'est lavé les cheveux.
Aujourd'hui, à 29 ans, elle œuvre pour améliorer les parcours de placement.
Dans l'aide sociale à l'enfance, il y a beaucoup de personnes qui donnent tout pour les enfants. Mais on s'occupe de nous de façon administrative. On est placé d'un endroit à l'autre qui paraît logique pour l'administration. Mais la logique administrative n'est pas forcément la logique émotionnelle.
Car chez elle, la multiplicité des placements a engendré un syndrome de stress post-traumatique.
Un témoignage recueilli par Anna Huermann. C'est un article de presse relayant des accusations contre l'urgentiste Patrick Peloux, le début de ce qu'on appelle le MeToo hôpital. Les ordres de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, de pharmaciens sont reçus par Frédéric Valletoux, le ministre chargé de la Santé aujourd'hui, pour mettre fin aux situations de violence avec des médecins parfois protégés. Emmanuel Hay, le président du syndicat des internes de Paris.
Il y a plusieurs facteurs qui permettent de créer cet environnement-là. Il y a de la verticalité du monde à l'hôpital qui est quand même très, très hiérarchisé, encore assez machiste. Et ensuite, il y a toute cette culture carabine qui est quand même très tournée autour de la sexualité, des discours, des blagues qui pourraient choquer ailleurs, sont banalisées un petit peu par tout le monde. Et le dernier point, c'est que les internes sont affectés à un CHU dans lequel ils restent entre 4 et 6 ans, sans possibilité d'en partir. On est quand même amené à être encadré pendant toutes ces années par les mêmes personnes qui se connaissent. Souvent, c'est pas possible de dénoncer quelque chose dans son environnement aussi proche. Il y a un côté un petit peu captif des internes pendant leur formation.
Emmanuel est interrogé par Rémi Pfister.
Le président chinois vient de passer la nuit à Paris.
La première visite de Xi Jinping en Europe depuis 5 ans, accueillie par le Premier ministre Gabriel Attal. Une visite pour marquer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Xi Jinping est ce matin reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron pour une discussion à 3 avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, car cette venue, c'est l'occasion de parler d'économie. Si l'Europe importe toujours autant de produits chinois, elle en exporte de moins en moins, sauf pour le luxe. Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'IFRI.
Pour la France, la situation est très compliquée et honnêtement, je ne suis pas très optimiste puisque la Chine est un marché très important, enfin, en tout cas elle l'était, notamment dans le domaine de l'aéronautique, le domaine du nucléaire civil. L'automobile était un secteur important, c'était un âge d'or des relations et des grands contrats et aujourd'hui cet âge d'or est révolu. Donc aujourd'hui, on se bat pour arracher un contrat ici et là dans des domaines agricoles extrêmement spécifiques. C'est pour ça que je ne m'attends pas à l'annonce de contrats mirobolants qui vont permettre de rééquilibrer le le commerce bilatéral entre la France et la Chine.
Marc Julien, invité ce matin du Journal de l'économie. C'est à réécouter en podcast sur l'application Radio Classique. Pendant que le président chinois est en France, les acteurs de la filière automobile française vont signer un accord avec l'État. Un objectif de 800 000 voitures électriques vendues en France dès 2027, multiplié par 3 en 4 ans les ventes, alors que les modèles chinois moins chers envahissent le marché et dont les constructeurs sont visés par des enquêtes à l'échelle du continent. Autre sujet majeur abordé, celui de la guerre en Ukraine. Xi Jinping assure ce matin dans le Figaro vouloir œuvrer à résoudre cette crise. On y revient avec Christian Macarian juste après ce journal.
Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Au Proche-Orient, les discussions sur un cessez-le-feu à Gaza n'ont pas abouti ce week-end.
Le Hamas et Israël se renvoient comme souvent la responsabilité de l'échec. Les discussions vont pouvoir reprendre demain au Caire, en Égypte, l'un des pays médiateurs avec les États-Unis et le Qatar. Sur le terrain ce matin, Israël encourage les habitants de l'est de la ville de Rafah à rejoindre les zones humanitaires. Rafah dans le sud de Gaza qui est l'objectif d'une offensive en préparation. Un conflit qui dure depuis le 7 octobre et l'attaque sur le territoire israélien menée par le Hamas. Une date qui correspond également à une résurgence de l'antisémitisme en France. Des assises sont organisées aujourd'hui avec des responsables d'associations et des cultes. Le conflit qui s'est invité également dans les universités françaises. Plusieurs sont bloquées et ce matin, les organisations lycéennes disent rejoindre le mouvement.
Des déchets qui débordent à Marseille.
La flamme olympique arrive justement ce mercredi à Marseille, mais l'ambiance risque d'être particulière puisque tous les arrondissements sont touchés, sauf le 1er et le 7e. Les éboueurs font grève. Véronique Dolo est représentante CGT à la métropole Aix-Marseille.
C'est pas nous qui avons choisi le timing, c'est la métropole. Le préavis a été déposé le 9 avril. Ça pourrait être réglé et ça aurait dû être réglé depuis longtemps. Là, le fait est que la métropole, comme d'habitude, ne prend pas ses responsabilités, ne s'occupe pas ni du service public, ni de la salubrité publique, ni des agents qui rendent tout ça. Et les agents sont à bout, en fait. Ils travaillent au milieu des rats dans la rue, mais quand ils rentrent pour se doucher, ils n'ont pas de douche, quoi. Ils sont dans des locaux, mais vraiment qui n'ont pas été refaits depuis 20 ans. On aurait été reçus avant, on aurait pu commencer les négociations et personne ne serait en grève et tout le monde serait serein pour le passage de la flamme.
Une propos recueillie par Marine Salaville et la métropole a demandé hier au préfet de réquisitionner les grévistes. C'est l'un des groupes qui va s'occuper de la cybersécurité des Jeux. Le groupe Atos en difficulté financière et qui annonce ce matin avoir reçu 4 propositions de sauvetage et se laisse jusqu'au 31 mai pour choisir. On y revient dans le décryptage de Pierrick Fay juste avant le journal de 8h.
La France et la Grande-Bretagne sont reliées par un tunnel depuis 30 ans désormais.
Inauguré par François Mitterrand et la reine d'Angleterre, 50 km de long à 75 mètres de profondeur, des millions de passagers par an malgré le divorce entre Britanniques et Européens. La société qui exploite le tunnel, Getlink, est désormais excédentaire et a su s'adapter justement à ce Brexit, Zoé Pallier.
Pour s'imposer face à la concurrence des ferries, Getlink promet depuis toujours de faire gagner du temps aux usagers. Avec une traversée de la Manche en 35 minutes seulement et des contrôles efficaces à la frontière malgré le Brexit, elle a investi pour cela 80 millions d'euros. Franck Dersin est conseiller régional des Hauts-de-France.
C'est beaucoup dématérialisé. Pour les transports en camion, souvent c'est fait 200 à 300 km avant, là où on charge. Donc le tunnel a mis des moyens pour assurer un passage rapide.
Malgré tout, les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se tassent, moins 10% par rapport à 2019. Getlink cherche donc d'autres sources de revenus, explique l'économiste des transports Yves Crozet.
Ils ont créé une filiale qui transporte des marchandises sur des trains qui s'appelle Europort, des trains de céréales par exemple, qui vont du bassin parisien vers La Rochelle. Et puis dans le tunnel entre la France et la Grande-Bretagne, il est possible aussi de faire passer des câbles électriques. Et ça, bien sûr, c'est une recette supplémentaire. Donc ils ont maintenant une sorte de portefeuille d'activités qui leur garantit une certaine rentabilité.
Se diversifier et trouver d'autres clients, pourquoi pas des concurrents d'Eurostar. 3 compagnies sont intéressées, se réjouit-on chez Getlink, qui veut développer la liaison Londres-Cologne pour concurrencer cette fois-ci le transport aérien.
Zoé Pallier, le Royaume-Uni, tiens, restons-y avec un autre anniversaire plus récent, le couronnement, il y a un an, de Charles III, des dirigeants du monde entier, une procession dans les rues de Londres. Mais un an après, le bilan se résume beaucoup à la maladie, celle de Kate et celle bien sûr du roi, tous les deux atteints de cancer à Londres, Laura Calmus.
Il s'était préparé à ce jour toute sa vie, conditionné à régner et à servir ses sujets. Alors pour les Britanniques comme Peter, Charles III n'a pas eu l'année espérée.
C'est malheureux qu'il ait un cancer. Il a fait du bon travail et je pense que cela a été très difficile pour lui. Je pense aussi que ce serait terrible s'il lui arrivait quelque chose.
Audrey, une Britannique à la retraite, retient également l'omniprésence de la reine Camilla. Elle, qui fut à une époque la femme la plus détestée du Royaume-Uni, a été projetée sur le devant de la scène.
Je suis sûre qu'elle n'a jamais rêvé cela, qu'elle deviendrait à la fois A, la reine, et B, son véritable soutien.
Pour Richard Fitzwilliam, spécialiste royal, Charles III a su également imposer son style bien différent de sa mère, la reine Elisabeth.
La reine venait d'une époque différente, donc vous savez, il ne se plaignait jamais, n'expliquait jamais. C'était davantage l'époque dans laquelle elle a grandi. Lui, c'était un prince de Galles engagé, et même si ce n'est pas le rôle d'un roi, il se voit davantage comme un rassembleur.
Une année qui sera aussi marquée par l'augmentation des rassemblements anti-monarchistes, un mouvement tout de même minoritaire. Seuls 28% des Britanniques préféreraient une république.
La correspondance à Londres de Laura Calmus.
Merci Charles Bonner, le roi de l'info qui revient à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre, l'écho du monde, l'Europe divisée face à la Chine, un problème non résolu expliqué par Christian Macarian. Radio Classique 7h.